COVID-19 is quickly circulating throughout the province of Quebec. It's essential that you get tested only if you have COVID-like symptoms. Symptoms such as fever, cough, and loss of taste or loss of smell. As you may already know, testing still remains one of the best ways to limit outbreaks. For more information, visit quebec.ca/test COVID-19. A message from the gouvernement du Québec.
Vous avez 65 ans ou plus? C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
We're the Quebec Redneck Bluegrass Project, sweet mama, yeah, sweet mama, yeah. We're the Quebec Redneck Bluegrass Project, sweet mama, yeah, sweet mama, yeah.
Le Québec Redneck Bluegrass Project, on suit les hits et les chouettes, les trois gars en allemand dans le monde entier.
We're the Quebec Redneck Bluegrass Project, sweet mama, yeah, sweet mama, yeah. We're the Quebec Redneck Bluegrass Project, sweet mama, yeah, sweet mama, yeah.
Le Québec Redneck Bluegrass Project, du haut d'un ciel, tout le monde en chambre. Ceux qui sont trop chauds, on va se les vendre. Au interdit, au péqué, au fil tendre. Au interdit, au péqué, au normand. Ouais, mais le Québec Redneck Bluegrass Project, en fait, une petite exception pour Fristan, vu qu'il joue.
We're the Quebec Redneck Bluegrass Project, sweet mama, yeah, sweet mama, yeah. We're the Quebec Redneck Bluegrass Project, sweet mama, yeah, sweet mama, yeah. We're the Quebec Redneck Bluegrass Project, sweet mama, yeah, sweet mama, yeah. We're the Quebec Redneck Bluegrass Project, sweet mama, yeah, sweet mama, yeah, sweet mama.
Bonjour à tous, vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Mon nom est Nelson, je suis avec le grand Manitou, Marc-André Jutran.
Bonjour.
Bonjour.
J'attendais le punch, mais merci, tu m'as introduit tout le temps comme j'étais James Brown. Cool! La foule applaudit en délire. Et là, on a un show électrique, on a un show scène locale. Vous allez voir, les liens vont aller plus vite que du haute vitesse, c'est promis.
Et pas là, attachez vos trucs avec de la broche.
Oui.
Avant d'aller plus loin.
Et vos Rice avec de la cassonade.
Oui, pourquoi pas.
Oui.
Et bien des guimauves. Avant de continuer, c'était une chanson de Quebec Redneck Bluegrass Project.
QRBP.
QRBP.
Ouais, moi, c'est plus facile.
Qu'effectivement, ma locution a rushé un peu. Là.
Mais au moins, tu t'es pas enfargé d'un mot. C'est pour ça que je te laisse le prononcer. Pourquoi qu'on commence en force comme ça avec cet excellent groupe Trash, Folk et compagnie? C'est qu'ils sont les gagnants. Hier, c'était là, c'est sûr, il va y avoir peut-être un petit délai. Mais il y a eu les GAMIC 2021 qui ont eu lieu au Café Campus cette année. C'était à la fois en présentiel et tu pouvais l'écouter dans le confort de ta maison. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était fort sympathique. Et c'est la GAMIC, ça récompense la musique indépendante
made okay.
in Québec,
okay.
faite au Québec. Et là, QRBP, pour les nommer, ont gagné un trophée, un Lucien, pour Lucien Francœur.
C'est le nom de tous les trophées
ouais,
du
tous les trophées, GAMIC. C'est du Lucien. Tu gagnes un Lucien.
Les trophées Lucien.
Les trophées Lucien.
C'est vraiment hot.
Pour Lucien Francœur. Et là, eux, c'était dans la catégorie album folk de l'année. Mais pour, c'est pas l'album qu'on vient d'écouter, je l'ai pas encore, c'est l'album qui s'appelle J'ai bu. C'est un ovni, c'est un livre et de la musique. Je pense que c'est un CD, je ne crois pas que c'est un vinyle, là. C'est vraiment un livre là, avec des anecdotes, des photos, tout ça, et des nouvelles chansons accompagnant le livre. Okay. J'ai bien hâte de
l'avoir. C'est comme un album avec une méchante grosse pochette.
Exactement.
De CD.
Ouais. Fait que tu m'achètes ça pour Noël, puis tout est réglé.
Noël, c'est déjà passé. Joyeuses fêtes à tous.
Ouais, ben ouais. Ben, ou cette année, ou tu peux me le donner de même. Tu peux être bleu.
Ou à l'anniversaire. Ou,
Ouais. Hey, c'est loin, c'est dans longtemps. Anyway, fait que c'est ça. Fait que les trophées, comme je disais, c'est des Luciens, mais c'est pas... J'avais vu d'autres trophées les autres années qui étaient confectionnés par le grand Manitou... de la gamique, qui est Patrice Caron, Patka pour les intimes. Et c'était souvent comme un trophée, comme un objet physique. Mais là, c'est plus comme une pochette d'album. Je sais pas si c'était vitré ou plastifié, là, mais ça avait l'air d'une pochette d'album ou comme une petite boîte de pizza. Là.
Okay.
Puis c'était un Lucien. Fait que chaque gagnant recevait ce prix-là. Et là, il y a des prix que j'ai trouvés... Je vais faire un meilleur coup de pas.
Ah oui?
Je pensais connaître la scène locale et je réalise, j'en perds.
Ben oui, c'était tout émotif, là, vu que t'as découvert. Il y avait quelque chose que tu savais pas avant.
Que je suis allergique aux peanuts que je viens de manger.
Et je t'avertis, Marc-André, hein, avant une émission de radio, on mange pas de peanuts.
Exactement, t'as bien raison.
Puis là, faut que tu boives une gorgée d'eau.
OK.
Avant de continuer, parce que sinon, tu pourrais pas raconter le reste de l'histoire des gamiques. Ouais. Donc, leçon à tous, à nos auditeurs. Des arachides pendant une émission de radio, c'est mortel.
Et... Moi qui voulais me donner du pep avant de commencer, désolé tout le monde. Hey, ça, tu peux pas être plus direct que ça, puis on est trop lazy pour recommencer. Fait que c'est du direct, c'est in your face. Non, c'est ça, c'est que il y a des catégories cette année que... Non, ben c'est ça, mon mea culpa, c'est que je réalise que je suis un poseur. Je ne connais plus la scène locale.
OK.
Dans aucune catégorie. Avant, je pouvais dire, OK, dans l'hardcore ou dans le punk, ou un petit peu dans le rap, ou un petit peu dans le trad, dans la musique... admettons, émergente, musique du monde, mais là, je reconnais pas personne.
Ben, c'est sûr, parce que c'est la musique émergente.
Ouais.
Ça peut pas être la musique d'il y a 20 ans.
Oui, non, je sais, mais niaise-moi pas, là. Hey, non, mais c'est ça, habituellement, tu sais, j'ai la pointe du iceberg, là. OK, comme, ah, telle band, telle affaire. Tu sais, il y avait comme Webster, il y avait un petit vidéo en nomination. Tu sais, il y avait une couple d'affaires que je reconnaissais, mais overall... C'est vraiment une nouvelle vague, une nouvelle génération, puis c'est ça qu'il faut, puis découvrir, puis c'est ça que ça sert à la gamique, c'est découvrir des nouveaux talents, les futurs talents qui seront plus émergents, que ça va être la musique qui va jouer, parce que dans le lot, il y a du monde qui sont très, très solides.
Ouais.
Et là, fait que c'est ça récupère, on pense, beaucoup d'artistes dans beaucoup de catégories, et dans l'album punk de l'année, j'ai été très surpris. Je vais nommer un nom. Maxime Gervais.
Maxime Gervais, ben on en a déjà parlé. C'est un des membres du groupe d'humoristes Les Picbois.
Bravo. Champion.
Et donc, Maxime Gervais joue...
Il fait de la musique.
Il fait de la musique. Ça, je le savais. Mais pour du punk?
Oui. Ben moi, je pensais que c'était plus... j'avais entendu des choses qu'il avait fait. Mais il y a un album punk, puis il a gagné.
Puis, OK, wow!
Ouais,
bon, félicitations.
Fait que, tu sais, moi, mon punk, je savais pas que c'était Maxime Gervais, l'humoriste, tout ça. Et, ben, c'est ça. Puis, ben, Last Band, tu sais, il y a un groupe qui accompagne toute la présentation et qui font, admettons, une pièce à leur manière du gagnant ou de la gagnante pour les introduire, tout ça. Et c'était un groupe, le Boucher vos oreilles, il y a des beeps, ça s'appelle Fuck Tout.
Ah, okay.
Je répète, fuck tout. C'est un groupe, on va dire punk hardcore montréalais qui ont déjà deux albums à leur actif que j'avais déjà vu jammer, mais jamais en show, mais je les ai déjà vus jammer à quelque part. Et les gars vont dire non, c'est pas vrai, mais c'est chez Christian Poirier.
D'accord.
Fait que, en tout cas, le guitariste était là.
Fait merci,
que,
Christian Poirier.
Merci de me les avoir fait découvrir. C'est à, ce moment-là que je les ai découverts. Et ben, c'est ça, c'est eux qui accompagnaient tout le monde et ça garochait. C'était du solide. Et le streaming, le diffuser de ta maison en direct du Café Campus, c'était très bien. Par contre, à un moment donné, ça dure longtemps, il y a beaucoup de catégories, il y a beaucoup de performances, il y a eu Paul Carniello, il y a eu beaucoup d'autres artistes. Et à un moment donné, il y a une entraque d'une demi-heure. Et pendant ce temps-là, ils mettent de la musique. Les gens du Café Campus qui sont déjà dans la salle vont aux toilettes, vont prendre des shooters, vont fumer une cigarette dehors. Mais toi, t'es à la maison, c'est un dimanche. Puis, Pépé, il était fatigué de sa journée, il était allé se promener dans le bois. Fait que j'étais dans mon Lazy Boy et c'était de la petite musique, dont une pièce qu'on va entendre tout à l'heure. Mais à un moment donné, je me suis endormi. Pas que c'était plate, là. C'est pas plate.
Ouais.
Mais je me suis endormi. Il y avait une intermission. Faut pas mettre une intermission. Et je me suis réveillé après l'intermission et fuck tout jouait.
Okay.
Et je peux te dire que ça garoche.
Ça t'a réveillé.
Ouais, ça m'a réveillé, mais pas de façon brutale, même si la musique est assez in your face. Mais j'étais comme, OK, où est-ce que je suis? Je suis pas dans mon lit. Il y a du fuck tout qui joue à la TV. Where am I?
OK.
Fait que c'était ça mon anecdote. Et c'est Patrice Caron, qui s'occupe... c'est pas lui qui l'anime cette année, c'est une animatrice. Je ne me rappelle pas son nom. Mais Patka fait une couple d'interventions et... Wow! Quel travail! Félicitations, chapeau! Je peux pas imaginer tout ce que ça prend, le live, le direct, tu montes sur le stage. À un moment donné, il y a un groupe qui est monté, il était pas dans la bonne piste, il s'entendait pas jouer. Fait que ça, tu sais, il y a eu beaucoup de délais, de retard, mais tu sais, il faut comprendre. C'est un gros show, là. Tu sais, c'est...
Puis c'est un show fait aussi avec peu de moyens.
Oui, probablement, oui. Des petits commanditaires, oui.
Oui, c'est ça, exactement.
Ouais.
Donc, c'est...
Ouais, on met tout en perspective. Fait. Mais c'est chapeau, bravo. Continue, lâche pas. Je sais que c'est un travail colossal. Il s'en va en vacances, là, décroché avec sa famille. Je comprends. C'est la charge de travail. Juste une petite émission boîte-boîte comme je fais là. Pour moi, des fois, je me casse la tête sur des détails, sur une virgule, au lieu de... Fait que je peux imaginer... Le travail qu'il y a en amont et la journée même, le niveau de stress.
Patrice Caron, qui est lui-même un animateur de radio.
Musicien.
Et on peut parler Booker. De ton émission aussi, hein? C'est sur les ondes de CIBL.
Oui, mais je pense qu'on devrait pas aller dans cette direction.
Oups, je suis allé trop loin.
T'es allé trop loin, mais il est en train de regarder d'autres avenues. Il y a un podcast, il y a un Patreon aussi.
OK.
Mais je pense que...
Mais bref, c'est quand même quelqu'un
qui est impliqué dans la scène.
Oui, puis qui fait ça depuis assez longtemps. Hein? Je sais pas combien d'années qu'il y a son émission de rock... C'est une émission de rock franco, sauf erreur? Ou c'est du
non,
rock?
Non, il passe de tout.
Ouais,
il passe de tout. Okay. Ça va dans toutes les directions. Ouais.
Donc, pour les gens qui font de la radio bénévolement, comme nous, ici même...
Payé en peanuts et...
Sur les ondes de sécurité.
Je m'en allais presque m'étouffer avec les peanuts.
Les vrais planters. Passionnés. Hein, on fait ça pour la passion.
Exactement.
Le feu sacré. Patrice Caron, c'est un modèle.
Exactement. On le salue. On salue toute l'équipe de GAMIC 2021 et du Café Campus et de la production qui ont pu nous permettre d'écouter ça de nos chaumières.
Oui.
Et là, est-ce que tu veux aller en musique? Est-ce que le temps file? Là, tu...
Ben écoute, on est tranquille. Hein? C'est le temps des fêtes. Ouais. On prend ça relax lundi matin.
Ouais.
On peut aller en musique si tu veux.
Tout le monde dort, personne ne nous écoute en dessous de la couette.
On est tous un peu lendemain de veille.
Exactement.
Avec un peu de eggnog.
Eh hey, ben bon, je sais ce que je vais faire. Oui, avec ou sans alcool?
Avec alcool.
Ah d'accord. Je voulais mentionner qu'il y a des shows qui sont à venir. Tu sais, ils se sont annoncés depuis quelques temps, mais les shows recommencent. On a vu des shows d'humour. On pourrait en parler si on a un petit trou. On essaie de voir des shows d'humour.
Ouais.
Mais là, il y a des shows musicales, dont Lisa Leblanc, qui a sorti un nouvel album, qui est en tournée partout. Fait que j'ai pas les dates exactes, mais vous pouvez aller voir ça, consulter. Il y a des légendes du punk rock américain, les Circle Jerk et Seven Seconds. Moi, je suis un grand fan des Seven Seconds. J'irai les voir. Je ne les ai jamais vus. Ils vont être à Montréal le 2 avril 2022. Et là, j'ai acheté mes billets pour Emil and the Sniffer. Vas-tu venir? Vas-tu te convaincre?
Ben, peut-être que oui.
Ouais,
on les a déjà vus en spectacle en première partie de
King Gizzard and the Lizard Wizard.
Il y a peut-être 2 ans, mais avant la pandémie.
Ouais.
2019, je crois.
Oui, exact.
Juste avant la pandémie.
Oui. Un groupe australien qui déménage. Ça va être le 17 mai 2022. Si je ne me trompe pas, c'est au La Tulipe. Et en parlant des King Gizzard, ils seront de retour, probablement si les dates ne changent pas, mais le 19 octobre 2022. Là, c'est dans un bout, mais ça vaut la peine de prévoir, d'économiser ses sous.
C'est un grand groupe, des grandes performances, la très bonne musique.
Du visuel aussi, très important. C'est pas juste
des projections vidéo durant tout le spectacle. Vous ne serez pas déçus. Vraiment, là, c'est du bon rock progressif par moment et par moment metal. Psychédélique, un peu plus trash metal par moment. Donc, ils se promènent beaucoup. Ils ont de la musique un peu pop électro aussi par moment. C'est vraiment un grand groupe de musique. Un incontournable dans la scène rock. Et ils viennent d'Australie. C'est le fun à dire aussi. Là,
c'est exactement. Ils viennent de loin. C'est exotique avec des petits kangourous et des... Koala. Et Emil and the Sniffer aussi viennent de l'Australie. Fait que ça donne une ambiance différente. Ils ont une approche différente au rock. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mangent dans leurs céréales là-bas.
Du Vegemite.
Ah, je connais pas. De la bière Foster, non?
Ah, peut-être aussi.
Crocodile Dundee, c'est pas ça qui est.
Un gros couteau.
Des gros couteaux.
Ouais.
Un steak. Mais tout ça pour dire qu'on a bien hâte de les voir. On n'a pas fait de jouer encore. Hein? C'est assez surprenant.
Effectivement, depuis qu'on fait de la radio, toi et moi, on n'a jamais mis King Gizzard and the Lizard Wizard.
Mais on aime ça le dire.
Effectivement, c'est un long nom de groupe qui sonne exotique, effectivement.
Mais là, on va aller, je suis loin du micro, mais on va aller avec un groupe français qui rock aussi.
D'accord, Marc-André. Pèse sur play.
Emma, pèse sur le piton.
Et là, ça ne jouera pas.
Puis le piton ne marche pas.
Il n'est pas
en CD. Party!
vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Marc-André, c'était du bon rock franco, ça?
Exactement. Le cri de la mouche. Tu as déjà entendu une mouche
biz,
crier?
Biz,
biz. Biz, biz.
Non, ça, c'est une abeille.
Ouais.
Et une mouche, c'est plus comme...
C'est moi, Zobie la mouche.
Le cri de la mouche.
Le cri de la mouche, groupe français, album paru en 1989, c'est éponyme. Et celle-là, c'était Parle-moi, Parle-moi d'amour. Et ça rock, c'est un groupe que j'ai découvert et que j'adore. C'est le premier album, j'ai eu bien de la difficulté à le trouver, je l'ai entre les mains. Un deuxième album, mes attentes sont très hautes, j'espère qu'il est dans la même veine. Il y a juste 9 pièces sur cet album-là. Et c'est ça, je regardais, il est marqué distribution Tréma Pâté. Tu sais, en France, ils ont une compagnie de cinéma qui s'appelle Pâté Vision.
Ouais.
Je sais pas si ça a rapport, c'est comme un...
Peut-être la même famille. Hein.
Même famille, une sous-division musicale. Et c'est un groupe français qui avait tourné, que les Grimmskunk avaient rencontré au printemps de Bourges à leur début. Et Franz, sur un des albums, mais quand il était revenu à Montréal, il avait souvent le T-shirt du logo du groupe, qui est une mouche qui pointe vers le bas. Et moi, j'adore ce groupe-là. Et la rumeur était qu'après leur deuxième album, vu que c'est un groupe, c'est des musiciens là, de haut calibre, et comme tu as pu voir, ça rock, il avait été recruté par Niagara, le groupe français.
Oui.
Fait que le keyboard puis le guitariste, il y a déjà un guitariste dans Niagara, mais je pense à un guitariste qui est très important dans ce groupe-là. Et le keyboardiste du Cri de la Mouche avait été rapatrié dans Niagara. Fait que ça a tué malheureusement le Cri de la Mouche, mais
un
groupe rock and roll comme ça, français de ces années-là, il y en avait pas beaucoup. Oui, il y avait du punk français, il y avait d'autres choses, mais du rock and roll, tu sais, Grande D, là, dans le tapis avec un son presque Hammond B3, là, Deep Purple-esque, si je peux m'exprimer ici, ben, c'est eux autres.
Ouais, ça sonne vraiment bien. Moi, j'étais convaincu que c'était un groupe québécois, en fait.
No.
Puis, non, c'est le fun d'en savoir que ça vient de l'Europe.
De l'Europe. Et en parlant de l'Europe, je fais souvent le lapsus entre le cri de la mouche et le dernier cri. Le dernier cri, c'est un collectif français visuel qui fait des affiches, de la bande dessinée, tout ça. Très, on va dire, distribution un peu l'attitude punk, do it yourself, tu fais des copies, puis tu distribues tes tracks ou tes petits pamphlets là, à la main. Et il était venu à Montréal à la Galerie Clark. Et eux avaient invité un artiste québécois qui rayonnait beaucoup en Europe, un peu moins ici malheureusement, du nom de Valium.
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 Comme les fameuses...
petites pilules.
Comprimées pour vaincre différents troubles. Mais c'est un artiste québécois.
Oui, exactement.
Un grand artiste plus de la scène underground, mais qui a quand même beaucoup marqué.
Oui. Il a fait des fanzines, il a fait de la musique, il a fait de la bande dessinée, il a fait des toiles, et il faisait les impressions de beaucoup d'affiches de spectacles pour des bars, principalement Foufoune Électrique, peut-être Café Campus, tout ça. Tu sais, les grandes affiches, dont une qui est au-dessus de ma tête, c'est de la sérigraphie. Des grandes planches, chic-chic, comme les T-shirts.
Deux, trois couleurs maximum.
Ouais, deux, trois couleurs. Et chaque affiche, des fois, est différente parce qu'à un moment donné, il faut que tu changes les tu sais, il faut que tu remettes de l'encre. Puis tout ça, fait que des fois, il y a des teintes différentes. Puis je me rappelle qu'il y a des gens, je pense, qui travaillent au Foufoune Électrique ou à d'autres endroits et ils regardaient toutes les affiches. Je me rappelle pas quel ami qui m'a dit ça. Et il en gardait une ou deux, trois, tu sais, qui étaient plus funky ou qui étaient différentes des autres, qui étaient généralement toutes imprimé pareil, même si c'était fait à la main, il y avait tout le temps un petit défaut, un petit glitch ou une petite affaire.
Une pièce unique à chaque fois.
Une pièce unique, exactement.
Même si c'était sérigraphié.
Oui, exactement.
Ah, c'est le fun.
Fait que c'est ça. Et là, malheureusement, Valium, son alias, c'est son nom, sur son baptême, c'était Patrick Henley, est décédé à l'automne. Et dernièrement, il y a eu un hommage à Valium. Faite par ses amis artistes, dont Caro Caron, Patka et compagnie. Pourquoi j'ai parlé des Mimi tout à l'heure et je voulais pas...
Des Gamik?
Des Gamik, oui, des Mimi. L'Apsus, c'est le, je pense c'est l'ancêtre du, de ce gala-là. Merci, tu me sors les mots de la bouche comme tout à l'heure, tu étais prêt à prendre une fourchette et à sortir la pinotte qui était prise dans mon gorgoton.
Je l'ai mangé après même.
Tu l'as mangé, elle était chaude, hein? C'est du beurre d'arachide.
Oui.
Bon appétit tout le monde, bon déjeuner. Le lendemain de la veille, on se spécialise dans le
miam.
C'est catalogique. Non, mais ça niaisait. Fait que c'est ça, il y a eu un hommage au Gamik 2021 à Valium. Sur sa carrière prolifique. Et j'ai trouvé ça très sympa de la part de Patka, qui le connaissait, qui l'avait interviewé aussi dans un de ses podcasts dernièrement, qui est peut-être la dernière entrevue radiophonique ou audio du personnage. Quand je dis personnage, c'est que c'est une personne, le peu que j'ai connu, mais juste avec son art, c'est une personne plus grande que nature. Et là, si je reviens à l'hommage qui a été fait au mois de novembre au Café Atomique. Ça dit la scène de BD de Contre-culture du Québec font un hommage à Valium. Et là-dessus, ben, le flyer est exceptionnel. Je l'ai dans les mains. Merci Caro Caron de m'avoir laissé une copie. C'est Carlos Santos, un de leurs amis, qui a fait le dessin. Et on voit Valium qui est comme sur une pyramide et qui tient la pyramide de la contre-culture sur ses épaules. Et en haut, il y a l'espèce de troisième œil.
Au sommet de la pyramide.
Au sommet de la pyramide, tout ça. Là, je sais pas si c'est les Illuminati. Et là, on voit 1959, Valium 2021. Et là, moi, je suis arrivé un petit peu en retard, mais dans l'après-midi, il y avait un encan, une procession de canonisation de son Saint-Garage.
Saint-Garage.
Oui, parce que Valium avait un garage dans lequel il vivait et faisait son art.
OK.
Oui.
Il vivait dans son garage.
Il vivait dans son garage à l'année et c'était son atelier, c'était son lieu de création et de production. Et là, plus tard dans la journée, là, je reviens à l'hommage, je sors du garage et après qu'ils ont canonisé le garage, ils ont fait une peinture en direct, une exposition, des performances musicales et un encan bénéfice pour la pérennité des œuvres de Valium.
OK.
Et là, Valium, faut dire qu'il a fait plusieurs bandes dessinées qu'il prenait beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de détails. Vous irez voir ça. Et sur les réseaux Internet. Et c'était en petite quantité. Fait que des fois, c'était un lot de 500, un tirage de 500 copies de telle bande dessinée.
Ouais.
Et moi, je me rappelle de deux bandes dessinées que j'ai eu la chance de lire. Et là, je veux pas me tromper d'un nom, je les ai pas écrits. Il y avait Cœur de maman, un extrêmement grand format que tu avais presque de la misère à tenir sur toi. Là. C'est des dimensions énormes avec beaucoup de détails. Fait qu'à chaque fois que tu ouvrais une page, tu voyais, c'est peut-être la grosseur des planches. Je pense qu'il a fait les dessins qu'il faisait. Absolument, on les rapetisse, on les met dans la bande dessinée. Mais là, je pense que c'était grandeur nature, si on peut dire. Là, c'était le même size. Et là, tu avais ça. C'était une pièce incroyable à lire. Il y a tellement de détails. C'est riche visuellement. C'est une hallucination. Et tu n'as pas besoin de prendre de psychotropes.
Okay.
C'est détaillé, là. Tu peux passer des heures sur une planche.
C'est un peu comme un Où est Charlie?
Oui, exactement. Mais là, il faut que tu trouves où est les personnages les plus crackpot possibles. Fait que c'était un événement. Je suis arrivé à l'encan. Patka faisait l'encan. Fait qu'il avait fait des toiles en hommage à lui. Beaucoup de portraits de Valium et... il y a eu des pièces d'artistes incroyables. Il y a eu des flambées de prix, si je peux dire. Il y a eu la vente de t-shirts. Moi, je me suis ramené une petite contribution volontaire. Tu pouvais te ramener une affiche qui avait été dessinée par un artiste. Fait que ça a vraiment été un bel hommage de ce que j'ai pu voir. Et j'étais très content de parler avec des amis. J'avais pas parlé à personne. J'étais avec ma blonde, puis on a vu les Jean-Michel Cholette. Balthazar Boudreau était là. Je me suis fait un ami avec un certain monsieur Molinari qui connaissait très bien Valium et qui, en parlant avec lui, j'ai comme collé des pièces du puzzle, du mystère autour de Valium. Parce que qu'est-ce qu'il faut dire, pourquoi je parlais au début du dernier cri, c'est que, un peu comme Voivod à une certaine époque, c'est « Nul n'est prophète en son pays ». Valium allait en Europe, allait à Paris, tout ça, était bien reçu et j'imagine, je souhaite. Et il y avait un statut d'icône de la bande dessinée underground au même niveau que les Robert Crumb et compagnie de ce monde. Et le dernier cri comprenait ça. Fait qu'il l'invitait là-bas, il y avait des squats de ce que j'ai pu comprendre et ils faisaient la production là-bas. Ils vendaient leur petite autoproduction là-bas et ils ont fait une exposition en échange ici au Québec, un double bill, là, t'sais, comme quand t'as deux groupes, viens jouer chez nous puis on va aller jouer chez vous. Puis ils avaient fait une exposition à la Galerie Clark et moi j'avais eu la chance de parler avec Valium pour la première fois à ce moment-là. Puis comme deux groupies, moi et mon cousin, ben on avait parlé des heures avec lui. Parce qu'à un moment donné, on parlait d'art. Parce que Valium, il faut dire aussi qu'il... je peux en parler des heures de temps, du peu que je sais, mais il tripait sur Tintin. Et en tripant sur Tintin, il le déformait. Ah. Fait que ça s'appelait Nit-Nit. Au lieu d'être Tintin, c'était Nit-Nit.
Ouais.
Et dans son fanzine qu'il faisait, ça s'appelait le Rectangle, je me trompe pas. C'était des photocopies. Fait que c'était des petits bandes dessinées qui parlaient de musique, d'underground, de dessin. Il dessinait là-dedans. À compte d'auteur, il faisait des photocopies. Et il allait dire, je vais devenir millionnaire. Tu sais, la photocopie est arrivée quand il était au cégep. Puis il allait au cégep du Vieux-Montréal. Puis il se disait, hey, ça va révolutionner toute la photocopie. Fait qu'on va vous revenir là-dessus parce que je sais qu'il faut aller en pause.
C'est déjà l'heure de la pause.
Oui, pause café.
Restez des nôtres. On va continuer sur d'autres beaux sujets et d'autres belles musiques sur les ondes de CKUT 90,3
FM.
La COVID-19 se propage rapidement au Québec. Il est essentiel de vous faire dépister seulement si vous avez des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID-19, comme la fièvre, la toux et la perte du goût ou de l'odorat. Le dépistage demeure l'un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour plus d'informations, consultez le québec.ca/test-COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. C'était une pièce de Valium.
Et les dépressifs.
Valium et les dépressifs.
Qui sont apparus sur la compilation des 17 groupes underground québécois, la fameuse compilation Lâchez Lousse.
Et Valium, dont on parlait juste avant la pause, qui était un artiste important de la scène underground BDS et compagnie.
Oui, mais il faut plus que ça soit underground, il faut que ça soit canonisé, il faut qu'il soit reconnu à sa juste valeur. C'est ça. Et là, on a entendu, il a même fait de la musique, ses amis l'ont convaincu à venir chanter. Et il a fait la pochette de la. Il a travaillé sur la pochette de Lâchez Lousse, qui est. Toi, connais bien l'histoire du Québec. C'est une valise qui est ouverte et avec quelqu'un à l'intérieur. Et il y a 17 groupes là-dessus. Et il y a des dessins de Valium à l'intérieur, tout ça. Donc, je vais en lire un petit en bas. Ça dit avant le spectacle, on va se saouler la gueule. Wow, des méchantes bites de hache. Fait que ça donne un peu une idée du personnage à cette époque-là. Et cette compilation-là est très importante pour le Québec, la musique émergente underground. Là, je vais te nommer en vrac, là, on va faire du name dropping, mais ça vaut la peine juste pour les noms des groupes à l'époque. Ça donne une ambiance.
À l'époque, c'est.
Les années 80. C'est-tu 88 que c'est sorti, là? Je ne le vois pas. C'est 90, j'étais pas loin.
OK.
Fait que là, t'as les Mongols. T'as Valium et les Dépressifs qu'on vient d'écouter. T'as les Stups. T'as Eric va aux toilettes. T'as les Rex. T'as Amnésie. Les Rectum. Genetic Error, Barf, Camel Clutch, Les Taches, Parasite, Idée Noire, Les Trois Corps Putains, Glop Glop, Goat et Les Biberons Bâtis.
Les Biberons Bâtis.
Oui. Fait que les bébés, ce matin, si vous n'êtes pas malade, on leur donne un biberon et ça règle le problème. Allez vous coucher, les enfants.
Donc, tous des artistes de la scène underground des années 1990.
Exactement.
Moi, j'en connais presque aucun. À part, j'ai peut-être déjà entendu parler des Rectum.
Ouais.
Et j'ai déjà entendu un album des Biberons Bâtis.
Ouais.
Il y avait un chanteur qui s'appelait Daniel Denis. Je ne m'en souviens plus comment il s'appelait.
Là, je peux pas t'aider.
Mais semble qu'il y avait un des albums, c'était le nom du chanteur et les Biberons Bâtis.
Ça me dit quoi.
Mais ouais. J'en sais pas plus.
Mais c'est comme du spoken word, c'est spécial, par exemple, les Biberons Bâtis.
C'est un peu comme de la poésie musicale, effectivement.
Ouais, ouais, c'est très intéressant. Les réclames Genetic Error qui existent encore avec certains Jungle Manor avaient joué. Ils vont jouer, ils ont joué à Noël. C'est un groupe de Trois-Rivières. Et les Rectums, c'est leur side project. C'est comme No Midino avec les Hanson Brothers. No Midino, c'est le groupe sérieux. Genetic Error, c'est le groupe sérieux. Et les Rectums, le nom le dit, c'est un petit peu moins sérieux. C'est du punk 1-2-3-4 in your face. Fait que le groupe existe encore. On les salue, André, bassiste, chanteur et compagnie. Fait que ça, c'était une compilation qui était très marquante pour le Québec. Valium est dessus, a dessiné dessus. Et c'est à partir d'une idée de Marsu qui est sur le label Bondage, qu'on va écouter un peu plus tard, qui fait partie d'un groupe que je vais juste dire leurs initiales. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait tous des acronymes. C'est BXN. On va en reparler plus tard.
BXN.
Oui, BXN.
Bixen.
Bixen. Les Bixen de Chicago. Et là, il y avait une deuxième compilation, Lâchez Lousse, qui était sortie un peu plus tard. Et il y avait 19 nouvelles saveurs. Et là, la pochette est différente. Ça a l'air d'une soupe au pois avec des biscuits soda écrasés dedans. Et là, dans cette compilation de rock québécois indépendant, je vais pas toutes les nommer, mais tu as les Crostons, dont Patka était chanteur, membre fondateur. Tu avais les Banlieues Rouges, qui ont eu beaucoup de succès, et là, j'en passe. Fait que c'est deux compilations qui étaient distribuées sur Cargo à Montréal, très importantes, et qui... C'est un Polaroid de cette époque-là de la scène montréalaise.
C'est quand même particulier que c'est une compilation qui a fait découvrir plusieurs groupes underground.
Oui.
Puis c'est peut-être quelque chose qui s'est perdu avec les années. Je suis pas certain que ça existe encore, des compilations de ce type-là. Est-ce qu'il y a des groupes rock qui se font comme ça?
Ben, rock francophone québécois, non, mais j'en regarde une là, qui est tout près d'ici. C'est On Guard, qui était le journal, je pense, de Concordia. C'était un journal avant ou à la même époque que le Mirror et le Voir. Et il y avait 14 groupes montréalais sur une cassette ou sur un vinyle. Et là, t'as les Infamous Bastards qu'on va probablement faire jouer à un moment donné, les Déjà Voodoo, My Dog Popper, Groovy Aardvark, AZ Azure sont dessus, Asexual et j'en passe. Fait qu'il y avait pas... Ça, c'était le penchant, on va dire, plus anglophone, mais pour le rock québécois ou alternatif québécois, il y avait pas eu grand-chose. À ma connaissance. Moi, en tout cas, la première que j'ai connue, je l'ai ici en cassette. J'ai ça en cassette. Ça fait longtemps que ça n'a pas joué, puis fait que je serais très content d'écouter Valium et les dépressifs. Et pour en venir à Valium, l'anecdote, c'est que nous autres, on voulait parler d'art, puis lui, je pense qu'il voulait parler de sa vie. Et comme il n'y avait personne dans cette galerie-là, cette journée-là, je ne sais pas si c'était un dimanche, et il commence à nous raconter ses déboires. Un peu qu'est-ce qu'il raconte. On dirait que c'était prémonitoire qu'est-ce qu'il chante dans cette chanson-là qui était faite bien avant. Mais il était en séparation ou en divorce et sa conjointe de l'époque, il se retrouvait à la rue finalement et il avait plus accès à ses presses. Ses presses qui lui permettaient de vivre et faire ses affiches, ce qu'on appelle les flyers, les grandes affiches collé sur les murs, placardé dans toute la ville pour annoncer un spectacle dans les différents clubs. Et là, fait que c'est quand même triste comme situation et c'est ça qu'il nous a raconté. Fait que le seul lien que j'ai eu avec Valium, c'est qu'il nous racontait qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Puis, tu sais, il devait être très content de l'exposition, mais en même temps, dans sa vie personnelle, c'était le chaos. Fait que c'est ça.
C'est quand même touchant. Puis c'est quand même... c'est quelqu'un qui est parti, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps.
Oui, très vite, trop vite. Et je pense que cette expérience-là lui a permis de faire une autre de ses bandes dessinées qui s'appelle De mémoire, lancez-moi pas de tomates, c'est Le Palais des Champions. C'est quand il s'est retrouvé un peu comme en chambre à louer ou en espèce de location avec d'autres personnes qui vivaient un peu la même affaire, là, qui se retrouvaient à la rue. Fait qu'il s'est retrouvé dans une espèce de complexe comme ça. Et ça lui a permis de créer une bande dessinée. Puis là, il a commencé à observer son entourage et il a fait le Palais des Champions. Et là, je reviens à l'hommage. Là, vous allez dire, je vous l'avais dit, il y avait des hyperliens plus vite que le haute vitesse. Ils ont fait les organisateurs de l'hommage à Valium. Je vais t'en donner un, Nelson. J'en ai rapporté plusieurs. Ils ont été très généreux.
Ah, oh, merci.
C'est de loin, ça s'appelle Christy de Champion, et c'est un dessin de Valium avec une auréole comme un rond, une lune en arrière, une lune ou un soleil en arrière de lui. Il est sketché, il est croquis en avant, et c'est comme une image un peu mystique de lui. Fait que c'est de toute beauté, c'est un autocollant, et je trouve que c'est ça le lien avec dans ses dernières bandes dessinées, si je me trompe pas, le Palais des Champions, ben là, c'est Christy de Champion. C'est ça qui était, c'était un champion, c'était un déterminé, quelqu'un d'obstiné puis qui n'a jamais arrêté d'avoir le feu sacré pour la bande dessinée et l'art visuel. Fait que juste pour ça, AV.
Chapeau.
Champion.
Reposer en paix.
Oui.
Est-ce qu'on continue en musique ou pas?
Ben moi, j'ai des films.
Oui, on peut parler de films. Parlons cinéma.
Oui. Je cours à l'instant.
Cours, Marc-André, dépêche-toi. Cours, jusqu'au blockbuster. Au dernier blockbuster qui est dans le Midwest américain.
Exactement. Ça, c'était une autre émission. Là, j'ai entre les mains un film de Gus Van Sant. D'après le roman de Blake Nelson, ça s'appelle Paranoid Park.
Paranoid Park, ouais. De Gus Van Sant.
Oui. T'en as déjà vu des films de lui, mais celui-là, t'avais pas l'air à le connaître.
Je l'ai pas vu, celui-là.
Oui.
J'ai pas vu celui-là.
Je te résume ça vite. Alex, un jeune skater de 16 ans, tue accidentellement un agent de sécurité, tout près du skatepark le plus malfamé de Portland, aux États-Unis, le Paranoid Park, d'où le titre du film, il décide de ne rien dire. Et c'est ça l'histoire.
OK.
C'est très, très... Moi, j'ai très... OK, ça date de... C'est pas une nouveauté, là. Ça date de 2008, mais c'est... Hein, c'est tu tombes en enfance, tu sais,
okay.
La musique, l'adolescence, les changements hormonaux, ce que tu dis, ce que tu dis pas à tes parents, ce que tu fais, ce que tu fais pas, qu'est-ce qui te blase, qu'est-ce qui te... C'est de toute beauté. C'est un petit gars qui skate, puis il se passe... c'est bien fait, c'est bien construit. Fait que je vous le recommande. C'est pas une nouveauté, mais c'est à voir si vous voulez retomber dans vos trips adolescents.
Ça me fait penser, si je peux faire un lien avec un film que j'ai vu récemment aussi sur Netflix, yes, qui s'appelle Mid-90s, qui, sauf erreur, est réalisé par l'acteur Jonah Hill, qu'on a vu dans plusieurs films, dont Wolf of Wall Street et compagnie, des comédies aussi. Puis c'est exactement un peu ce que tu viens de décrire. C'est un film qui se passe dans les mid-90s, donc mi-90, d'un jeune adolescent de 13-14 ans, petit format, qui veut s'insérer dans une gang de skaters, mais lui, c'est un nouveau skater, il est pas capable, mais il veut se prouver, fait qu'il fait des cascades impossibles, il commence à fumer du pot pour la première fois, de la cigarette, il commence à rentrer tard, la musique de ces années-là aussi. Par moment, on a l'impression d'écouter un film, des vidéos de skate comme on pouvait voir à cette époque-là.
Oui, ben oui.
Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de skate. Et ça se passe, je présume, là, en Californie. Il fait toujours beau. Puis il y a beaucoup d'asphalte là-bas, sur la côte ouest américaine. Mais Paranoid Park, ça...
C'est dans ces eaux-là. Puis c'est drôle que tu dis ça. Dans le film, justement, il y a beaucoup de musique présente. Et il y a beaucoup de... Une manière, ils sont dans un pipeline. Mais il y a beaucoup de scènes, comme tu dirais. Ben, c'est les vidéos qu'on a regardées, là, c'est comme des vidéos juste de skate. Ben, il y a une partie que c'est juste ça. Les gars font des tricks, puis tout ça. Fait que c'était presque un vidéoclip de skate, tout ça, en même temps. Fait que ça rappelle vraiment l'adolescence, parce que je n'ai pas réécouté depuis fort belle lurette. Et là-dedans, ben, il y a un petit clin d'œil à ce genre de cinématographie, si je peux m'exprimer ici. On va continuer dans un mode adolescent, tu sais, en parlant de Valium, de bande dessinée, ben, puis d'écouter de la musique, puis le skate, puis commencer à aller voir les shows. Ben, c'est ça que les prochaines bandes dessinées que je vais vous présenter parlent. Là, c'est une série, ça s'appelle Gung-Ho. Je te dis Gung-Ho, à quoi ça te fait penser?
Gung-Ho? C'est pas un truc japonais, de cinéma japonais. Je suis pas certain, vraiment. Là.
Ben, bel effort. C'est un... il l'explique à l'intérieur de la bande dessinée. Gung-Ho est un cri que l'on pousse pour se donner du courage, pour montrer qu'on n'a pas peur de rien. Son origine viendrait des soldats américains qui l'utilisaient lors de la Seconde Guerre mondiale.
Ah.
Par extension, ce cri désigne une tête brûlée, une personne téméraire.
OK.
Gung-Ho.
Gung-Ho.
Pas G.I. Joe. Il y a un personnage dans G.I. Joe qui s'appelait Gung-Ho.
Ah.
Ouais, exactement. C'était une tête brûlée. Fait que c'est une bande dessinée faite par Von Kumant et Von Ekacheber. Pardonnez-moi de massacrer leur nom ici. C'est une série en 5 tomes. Et là, il y a une chose que je comprends pas. J'ai le dernier tome dans les mains. Ça s'appelle Mort Blanche. La pochette est hémoglobine au maximum. Dans le fond, c'est deux adolescents qui sont pris dans une espèce de situation, qui sont abandonnés. Et encore là, le monde de demain, là, que tout va mal. Et c'est deux orphelins qui comptent un sur l'autre. Fait que c'est des adolescents. Mais là, il y a une chose que je comprends pas à l'intérieur. Ils disent ceci. La série Gung-Ho est complète en 4 tomes de 80 pages et un tome de 100 pages. Fait que le tome de 100 pages, j'imagine, c'est une intégrale. Pour, tu sais, à place de t'achètes 5 bandes dessinées, t'achètes le format intégral, t'es à toutes. Mais là, la série Gung-Ho est complète en 4 tomes. Moi, j'ai le 5e tome dans les mains. Si quelqu'un peut m'expliquer Moi, okay. Je n'ai pas la réponse.
C'est comme un épilogue aux quatre.
Oui, mais c'est la fin. C'est, ça termine. Puis on est content que ça termine. On suit les deux adolescents qui rencontrent d'autres gangs, tout simplement. Et le dessin est très graphique. Les couleurs sont vives. C'est presque fait. C'est presque fait à l'ordinateur, mais ça se lit très bien. C'est à peu près juste ça que je vais dire. Je vais peut-être juste lire en arrière. J'aime ce qu'un des personnages méchants dit. Il s'appelle Holden Peterson. Il dit « Fais marche arrière. C'est pour les vieillards et les lâches. Il nous faut avancer sans nous retourner, mec. » Et là, il te regarde avec des armes et un maquillage prêt à faire la guerre.
Un fusil bout portant. Effectivement, les illustrations, on a quasi l'impression que c'est comme fait par ordinateur. C'est pas impossible. Là. Je suis porté à croire que c'est pas mal ça. Surtout avec les images en arrière, les backgrounds, dans le fond. Là, les,
ouais, probablement.
Les images en arrière-plan qui ont l'impression d'être faites à l'ordinateur. Donc, c'est très bien détaillé. Là. C'est, par moment, on dirait quasiment de la photographie.
Oui, exact. Non, okay. C'est visuellement, c'est impeccable et l'histoire est bonne. Parce que des fois, c'est bien beau que l'enrobage est beau, mais si l'histoire est vide. Mais ça fonctionne très bien. Et c'est des Belges, comme vous avez pu l'entendre avec j'ai massacré leur nom, mais c'est une bande dessinée française, malgré le titre anglophone. Et là, ce que j'ai dans les mains, la prochaine, est-ce que j'ai le temps où on parle de musique?
Il nous reste un gros 8 minutes.
Ah, ben j'ai le temps de tout faire ça. Dans la nuit noire de David Small, c'est un one-shot. Quand je dis one-shot, c'est il n'y a pas d'autre. C'est une histoire, ça se finit, ça commence, ça finit avec cette unique bande dessinée aux éditions Delcourt. Et en gros, moi, j'adore la prémisse et je vais te dire à quoi ça me fait penser. Ils ont tout un lien, là. C'est dans l'Amérique rurale des années 1950, un jeune adolescent fait son apprentissage entre un père brisé par l'alcool et l'apparition d'une sexualité ambivalente. Fax, à quoi ça m'a fait penser en lisant cette bande dessinée-là? Un roman qui est un classique de la littérature américaine que j'avais dû lire en anglais et que j'ai relu il y a quelques années en français. Un certain J.D. Salinger. Là, je le prononce super mal. Les anglophones vont dire c'est Salinger.
J.D. Salinger, je crois.
Oui, Salinger. Qui avait écrit Catcher in the Rye.
Oui.
L'attrape-cœur en français.
Oui.
Qui est un roman d'apprentissage qui a été écrit à la première personne et qui se déroulait à peu près sur 3-4 jours dans la vie d'un adolescent. Et sa quête, son errance solitaire là, pour se faire des nouveaux repères. Parce que je pense que c'était fait...
Je pense que c'est un jeune qui arrive dans une nouvelle école.
Ouais, mais ça se trompe pas. Pas bien.
Puis qu'il se moque un peu, il juge un peu tout le monde.
Ouais.
Les phonies, ce qu'il appelait. Puis, sauf erreur, c'est aussi le seul roman de cet auteur-là qu'après avoir écrit ce roman-là, il a comme un peu disparu de la carte.
Ah, ça se peut.
Mais... Corrigez-moi si je me trompe.
Ouais.
Je connais pas toute l'histoire.
Faites enquête.
Oui.
Mais là, c'est à peu près la même. C'est pour ça que je dis qu'il y a un lien parce que le petit gars, tandis que sa mère vient de quitter le domicile familial, le personnage principal qui a 13 ans, il s'appelle Russell Pritt. Il décide de suivre son père in California. Mm-hmm. Puis en Californie, tous les deux atterrissent dans une ville délabrée. T'sais, ils pensaient avoir un nouveau futur, une nouvelle chance. Mais là, c'est un endroit délabré, hanté même par un sadique tueur d'animaux. Puis là, il pensait avoir une maison, mais finalement, il se retrouve dans une pension, dans une famille tenue par des immigrants chinois. Et fait que là, tous leurs rêves, on va dire, américains se bousculent ou c'est pas ce qu'ils avaient planifié. Mais là, le jeune garçon qui est souvent... trouve tout seul, il est persécuté par une bande de garçons qui sont malveillants, puis qui s'en prennent un peu à lui, parce que lui, il est comme un peu fluette, un peu, il est un peu mince, il est un peu petit.
Okay.
Puis là, il est comme entre deux âges, genre entre l'enfance et l'adolescence et après l'âge adulte. Fait que là, ils s'en prennent à lui parce qu'il est efféminé, puis qu'il est différent. T'sais, il vient pas de la Californie, il vient pas de leur quartier. Fait que là, il y a une petite rivalité. Mais... quel beau roman graphique de David Small, mais c'est quand même un portrait brutal sur l'adolescence. C'est pas Jojo, mais ça se lit très bien. C'est une brique, c'est vraiment une monographie là. C'est un tome impressionnant. Et moi, je vous le conseille fortement. Tiens, je te le prête, c'est en noir et blanc. C'est du délavé presque de langue de Chine avec du clair obscur et du noir et des scènes de bataille. Ça c'est très bien.
Dans la nuit noire de David Simon, effectivement, ça a l'air super intéressant. Et ça se passe dans les années 50.
Exactement.
Donc, il nous reste un gros 4 minutes.
Et là, on va terminer avec, si vous n'avez pas trouvé l'anacronyme ou les lettres que je vous avais dit tout à l'heure, BXN, c'est pour les Berruriers Noirs.
Ah, d'accord.
Et on va écouter un concerto. Fait que là, je vais aller m'installer.
On va s'installer avec un beau gros vinyle là, 33 tours. C'est pas grave, Marc-André, on n'est pas prêt, mais là, on va l'être. Donc, on rappelle à tous qu'on est toujours en mode home studio. Donc, on pige dans la collection privée de Marc-André. Et
oui.
Il y a une belle grande collection de vinyles et de disques compacts. Et donc là, on va écouter une belle chanson de Berruriers Noirs. On aime ce groupe ici, au lendemain de la veille. On va terminer en chanson et on se voit à la prochaine.
Get change, you're dressed like a tramp. Change your password so I can see your messages. When are you going to change your mind, you stubborn idiot? Change your attitude when you talk to me. Change your friends. You better change your tone of voice. It's not up to her to change. It's up to you. Violence against women stops now. Talk about it. Do something about it. And call SOS Violence Conjugale. A message from the gouvernement du Québec.
Puisque ça fait plus d'un an qu'on le mentionne, et que de toute façon vous le savez probablement déjà, on a décidé de ne pas vous le dire. Donc, on ne vous redira pas que pour se protéger de la COVID-19, il faut se laver les... On ne répétera pas encore une fois qu'il faut porter un... Et surtout, qu'il faut garder nos... avec les autres. Vous le savez, c'est la meilleure façon de combattre le virus, même lorsqu'on est vacciné. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
looking for Montreal's best organic and fair trade certified coffee, and the winner is Saint-Tropez, serving the freshest to the coolest means that not only the folks at CKET are hooked, it's also McGill's fair trade favorite. Enjoy it in the cup at the Architecture Cafe, Thompson House, and Veggie-Rama Arts, Education, and Music. Find it by the pound at Fruiterie du Parc in the shopping concourse under the new Hotel McGill at Place du Parc. Or go straight to the source, Café Saint-Tropez, at the corner of Duluth and Saint-Urbain,